Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire de l'agriculture capitaliste en France du XVIIIe siècle à nos jours. Donc une émission historique avec William de la Critique de la Valeur. Après une introduction où on a posé nos objectifs dans cette émission, c'est-à-dire écrire une contre-histoire de l'agriculture capitaliste qui ne soit ni celle d'une modernisation qui se fait attendre, le retard français, etc., ni celle d'une idéalisation de l'agriculture paysanne intégrée dans le capitalisme à partir du 19e siècle, qu'on opposerait de manière absolue à une agriculture agro-industrielle, alors qu'en réalité, les deux sont des deux formes d'agriculture capitaliste, même s'il y en a une dont évidemment on est plus proche et qu'on... Mais il faut évidemment poser les limites de celle-ci. Et donc dans l'introduction, on avait également montré les spécificités de l'agriculture française par rapport à l'agriculture anglaise, qui devient une agriculture capitaliste avec une triade propriétaire capitaliste, fermier capitaliste et salarié agricole dès le XVIIe siècle, alors qu'on est sur une agriculture paysanne, d'abord pré-capitaliste, puis capitaliste, en France jusqu'au XXe siècle. Alors, dans cette partie, on aimerait bien revenir sur, tout d'abord, partir de l'agriculture française d'Ancien Régime pour montrer justement comment est-ce que se passe l'émergence du capitalisme agricole en France. Et alors, de manière générale, on renvoie également à deux autres émissions ou conférences. D'une part à l'histoire de l'émergence du capitalisme en Angleterre, dont on a donné quelques éléments dans l'introduction, mais on a abordé de manière beaucoup plus approfondie dans une émission avec William. Et on renvoie également à une conférence qu'on a fait dans le cadre de la Critique de la Valeur d'ailleurs, sur l'histoire de l'émergence du capitalisme en France, et qu'on trouve sur le site de Sortir du capitalisme, tout en bas de la note de lecture sur Daniel Guérin, Bourgeois et Branu. Voilà, donc il y a la première note de lecture de Sortir du capitalisme. Voilà, alors donc pour justement l'agriculture d'Ancien Régime, donc dans cette optique, on s'est pas mal inspiré d'un certain nombre d'historiens qui défendent de manière générale l'idée que l'Ancien Régime n'est pas capitaliste. Donc ça, c'est l'idée qui est développée notamment par Jean-Yves Grenier dans un ouvrage qui s'appelle L'économie d'Ancien Régime, où il pointe tout un tas de différences entre le capitalisme et l'économie d'Ancien Régime, comme il l'appelle. Et donc là, je vais me concentrer uniquement sur en quoi est-ce que l'agriculture française n'est pas capitaliste au XVIIIe siècle, et même l'agriculture qu'on pourrait penser capitaliste, qui est l'agriculture donc du bassin parisien. En réalité, si on suit un historien qui s'appelle Stephen Miller, dans un article qui s'appelle « French Absolutism and Agricultural Capitalism », l'absolutisme français et l'agriculture capitaliste. Lui, il oppose, il soutient que donc, l'agriculture française au XVIIIe siècle n'est pas une agriculture capitaliste, et ce, contre la thèse qui est défendue par des historiens ruraux comme Morisseau, notamment dans son ouvrage qui s'appelle « Les fermiers de l'Île-de-France, l'ascension d'un patronat agricole », et aussi il s'oppose également à Gilles Postel-Vinet dans « La rente foncière dans le capitalisme agricole ». Donc il y a un ouvrage des années 70 publié aux éditions Maspero. Alors quels sont ces arguments justement qu'on reprend largement à notre compte pour dire que l'agriculture de l'Île-de-France, donc qui est l'agriculture qui pourrait être la plus capitaliste, la plus considérée comme capitaliste au XVIIIe siècle, pour cet historien, c'est uniquement une production, donc certes c'est une production commerciale, mais tout d'abord, elle n'est pas capitaliste pour un certain nombre de raisons. Et il faut prendre toutes ces raisons ensemble, hein. Sinon, une par une, elles ne suffisent pas pour disqualifier que c'est une agriculture capitaliste. D'une part, elle est extrêmement régulée. Donc par exemple, elle ne peut pas être exportée. Et elle fait l'objet d'une régulation d'Ancien Régime extrêmement forte. Il n'y a pas un primat de l'économie dans ces sociétés. L'économie n'est pas... Une structure sociale dominante, bon, si tant est qu'on peut parler d'économie, mais enfin, peu importe sur le débat sémantique, mais en tout cas, elle doit obéir à la logique d'Ancien Régime qui est que le grain doit nourrir les villes pour éviter des émeutes frumentaires qui mettraient en péril l'Ancien Régime. Donc c'est ça le principal objectif de l'agriculture en France au XVIIIe siècle, c'est de nourrir les villes pour éviter des révoltes frumentaires qui ont été nombreuses tout au long du XVIIIe siècle. Et donc sur ces révoltes, on renvoie notamment à l'ouvrage de Nicolas qui s'appelle La Rébellion française. Donc voilà, ça c'est important de préciser que l'agriculture a avant tout un objectif social. Alors que, évidemment, en Angleterre, dès le XVIIe siècle, le principal objectif de l'agriculture, certes, accessoirement, c'est de nourrir les londoniens, mais c'est principalement une occasion de faire du profit, de valoriser du capital. Ensuite, les prix sont régulés. Ce n'est pas donc des prix qui sont liés au marché, à la concurrence, à la productivité, comme en Angleterre, mais c'est les autorités locales les foules. Quand elle se révolte si le prix est trop élevé, donc lors des émeutes frumentaires, qui décident du prix. Donc là, on voit vraiment que l'agriculture en France est subordonnée au niveau de la vente, et sachant que, n'oublions pas que là, on parle vraiment d'agriculture commerciale d'Île-de-France, parce que partout ailleurs, l'agriculture a principalement comme objectif évidemment l'autosubsistance, donc elle ne va même pas sur le marché, sur ce marché précapitaliste. Enfin bon, pour revenir sur ce marché quand même précapitaliste, donc le prix n'est pas fixé en fonction d'impératifs capitalistes, mais avant tout pour nourrir la population, donc son prix est largement déterminé par le pouvoir d'achat de la population. Et c'est ce que les libéraux vont essayer de combattre tout au long du XVIIIe siècle, avec la libéralisation du commerce des grains, et n'y arriveront qu'au moment de la Révolution française. Donc je vais revenir sur cet épisode un peu plus tard. Troisième chose, cette agriculture donc pseudo-capitaliste d'Île-de-France, et du Nord aussi, hein, elle est soumise à d'importants droits de douane intérieurs. Donc on n'est pas sur un marché national. En réalité, si par exemple on produit, je sais pas moi, vers Bourges, dans le Cher, et qu'on produit donc commercialement pour Paris, eh bien en fait, on ne fait pas partie du même marché, et donc il va y avoir un certain nombre de droits de douane. Ça fait vraiment que les marchés sont relativement cloisonnés, ce qui fait que le marché agricole en France, c'est un peu comme si... La vente donc à Paris de marchandises agricoles qui viennent de la région de Bourges, c'est un petit peu comme du commerce au long cours qui avait lieu au Moyen Âge et dans l'Antiquité. Il y a vraiment, bon, évidemment c'est plus développé, il y a eu une forte monétarisation des relations sociales, mais globalement on est dans ce que Hélène Mecksinszoud appelle le commerce d'Ancien Régime. Et ça, donc, ça, c'est uniquement pour l'agriculture pseudo-capitaliste d'Île-de-France. Après, partout ailleurs, c'est beaucoup plus clair, le caractère non-capitaliste de l'agriculture est beaucoup plus clair. Donc, pour citer maintenant un ouvrage très important de Georges Comminel, qui s'appelle Rethinking the French Revolution, donc il y a un marxiste proche de Robert Brenner et d'Hélène Mecksinszoud, qu'on a largement mis en avant dans notre émission sur l'émergence du capitalisme en Angleterre. Donc lui, il défend voilà, l'idée que l'Ancien Régime n'est pas capitaliste, et donc il dit notamment sur la question de l'agriculture, cette production resta toujours limitée par l'existence collective et sociale de l'entière communauté paysanne, les journaliers eux-mêmes restaient des paysans, produisant leur propre subsistance sur des terres pour lesquelles ils devaient payer des rentes usurières. Cette structure d'exploitation nécessitait un maintien des structures traditionnelles paysannes. Donc on reste largement en France au XVIIIe siècle, vers une agriculture de production vivrière, qui ensuite est ponctionnée par le seigneur, comme dans le féodalisme. Voilà. Et la paysannerie française, surtout, maintient énormément de droits et de communaux. Ça, c'est quelque chose qui, en Angleterre, au XVIIe siècle, les droits de pacage et tout un tas d'autres droits qui donnaient, qui faisaient que, par exemple, des paysans sans terre pouvaient survivre dans le cadre de la communauté villageoise, en faisant paître leurs vaches sur des terrains communaux. Eh bien, en France, tout ça existe encore. Et c'est quelque chose de très important. Autre caractéristique française qui peut paraître complètement, qui est inverse de l'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas de concentration foncière en France avant la fin du 19e siècle. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est que le maximum de concentration foncière en France avant 1880, eh bien, c'est 1675, où là, la noblesse a récupéré pas mal de terres sur la paysannerie grâce à un édit en 1600, dans les années 1660 de Louis XIV, qui lui donnait le droit, ce qu'on appelle le droit de triage, de s'approprier un tiers des terres communes. Donc il y a eu, évidemment, bon, il y a quand même une mainmise de la seigneurie sur les terres, donc elle détient quand même 30% des terres, mais quand même la paysannerie a conservé ses communaux et conserve 55% de la propriété foncière. Et tout au long du XVIIIe siècle, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que, justement, ce soit la concentration capitaliste et tout ça, selon la thèse donc, des gens qui défendent qu'il y a une agriculture capitaliste en France au XVIIIe siècle, en fait, les paysans arrivent à acheter de plus en plus de terres. Et alors, comment est-ce qu'on explique ça? Et ça, c'est là où on voit que c'est... on est vraiment dans un schéma radicalement différent de l'Angleterre. C'est tout simplement parce que les paysans veulent la terre. Leur idéal, c'est l'autosubsistance. Pas l'agriculture capitaliste, hein, c'est vraiment l'autosubsistance. Donc, ils cherchent à tout prix à acquérir des terres. Et donc, en fait, que font la plupart des propriétaires de terres? Eh bien, ils pourraient avoir le choix de se dire, eh bien, je vais continuer d'acheter des terres pour justement les mettre en valeur de manière rationnelle et vendre massivement sur un marché capitaliste de manière rentable. Comme en Angleterre. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. C'est comme ça que s'est faite la concentration des terres. Les seigneurs se sont dit, enfin, les propriétaires capitalistes, se sont dit, on va concentrer les terres, on va les louer à un fermier qui va du coup pouvoir investir du capital et faire du profit dessus. À l'inverse, les propriétaires en France font tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent leurs terres aux paysans, c'est incroyable. Ils vendent des micro-parcelles aux paysans, ce qui explique l'éclatement du foncier en France jusqu'au XXe siècle. Ils vendent des micro-parcelles aux paysans pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que on est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler uniquement une forme de profit usurier, voilà, usurier ou rentier. Il n'y a pas du tout de mise en valeur capitaliste. On vend aux paysans au prix fort des micro-parcelles, ou alors on leur loue au prix fort des micro-parcelles. On est à l'inverse d'une logique qui serait d'augmenter la productivité, de devenir compétitif et tout ça sur un marché national. En fait, on loue ou on vend aux terres les paysans qui ont des micro-parcelles complètement improductives, mais ça permet de gagner pas mal d'argent. Et donc là, on est vraiment sur une logique qui est quand même très différente du capitalisme. Et ce qui fait que du coup, les forts profits de l'agriculture pseudo-capitaliste d'Île-de-France au XVIIIe siècle, en réalité, sont liés au fait que les paysans étant sur des micro-parcelles, ils ont besoin de vendre une partie de leur force de travail pour compléter parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture avec ce qu'ils produisent sur leurs petites terres. Donc ils ont besoin en plus d'acheter quelques trucs au marché. Donc là, ils vont vendre une partie de leur force de travail, quelques heures, quelques jours, voilà, ils vont faire des saisons et tout ça. Les forts profits de l'agriculture pseudo-capitaliste parisienne résultent largement en fait du fait que ces paysans, qui ne sont pas du tout des prolétaires pour le coup, puisqu'ils ont quand même des terres, sont obligés quand même de se vendre pas cher du tout, et donc du coup, évidemment, grâce à ces salaires extrêmement faibles, ils font un profit, et ils font également un profit parce qu'ils sont en situation de monopole pour nourrir la capitale, et donc quand même la capitale est obligée de leur acheter relativement cher leur blé. Donc on n'est pas sur une logique de concurrence généralisée avec une baisse des prix, une baisse relative, ou une stagnation, ou disons des augmentations pas trop fortes des prix tout au long du XVIIIe siècle. Et après, il y a un dernier phénomène dont il faut parler, donc c'est l'acquisition des terres. Il y a des acquisitions de terres par la bourgeoisie, qui a pu être vu comme une sorte d'accumulation primitive agricole capitaliste en France, mais en réalité, ce n'est pas une accumulation, c'est de l'achat de terres pour, par exemple, devenir seigneur. Voilà, quand on achète des terres seigneuriales, on peut devenir seigneur alors qu'on était roturier et bourgeois. Ça peut être une manière de louer ces terres à plein de petits paysans pour se faire une rente, donc on n'est pas du tout dans une logique capitaliste. Hein. C'est là où il faut bien différencier la rente féodale et la rente capitaliste. La rente capitaliste, on ne fait pas d'argent parce qu'on loue à plein de petits paysans en autosubsistance, mais on fait de l'argent dans la rente capitaliste parce qu'on loue à un propriétaire qui va vendre massivement sur le marché capitaliste de manière rentable. Finalement, la bourgeoisie agraire, entre guillemets, au XVIIIe siècle, qui pourrait ressembler aux capitalistes agricoles en Angleterre, en réalité, se comportent comme des seigneurs. C'est-à-dire qu'ils extorquent leurs paysans, à qui ils louent des terres à des prix prohibitifs, et ils bénéficient évidemment des privilèges seigneuriaux qui vont avec. Et donc au final, c'est pour ça qu'il y a une très faible augmentation de la productivité en France au XVIIIe siècle au niveau de l'agriculture, ce qui est vraiment un indice de plus sur le fait que cette agriculture n'est pas capitaliste, même si évidemment c'est pas une agriculture merveilleuse. Bon, ça je pense que c'est quand même quelque chose d'assez évident, qu'on ne défend pas évidemment l'agriculture pré-capitaliste. Alors, il y a quand même une rupture qui va se passer à un moment, enfin une tentative de rupture. C'est ce que j'ai appelé la tentative ratée, une modernisation de rattrapage de l'agriculture française sous l'Ancien Régime. Et ça va se faire avec des personnages qui sont assez importants dans l'histoire agricole française, c'est les physiocrates. Alors, en lien donc avec l'émission, avec les deux choses dont j'avais parlé, donc l'histoire de l'émergence du capitalisme en Angleterre et l'histoire de l'émergence du capitalisme en France, il y a en France, à partir du milieu du XVIIIe siècle, mais surtout après la défaite de la France à la guerre de 7 ans contre l'Angleterre, donc c'est comme ça que la France, par exemple, va perdre le Canada, hein, pour rappel, il va y avoir, à partir de ce moment-là, une partie des élites qui vont se dire « il faut qu'on imite l'Angleterre pour sauvegarder l'Ancien Régime, pour construire une vraie économie qui n'est pas une économie arriérée, qui ne rapporte pas assez d'impôts, et qui fait que du coup, la France est surendettée, n'a pas suffisamment de capacité de lever de l'argent pour avoir une armée moderne et efficace. » Donc évidemment, on n'est pas en train de dire que ces modernisateurs, donc qui sont largement donc les physiocrates et les Lumières, se disent « on va adopter le capitalisme ». Ils sont évidemment pas dans ce type de raisonnement-là. Ils se disent « il faut qu'on adopte les rapports sociaux et les rapports fonciers de l'Angleterre pour pouvoir maintenir l'Ancien Régime en place ». Donc eux, ils sont attachés en fait à la société d'Ancien Régime, ils veulent juste qu'elle marche mieux. Alors, comment est-ce qu'ils envisagent cette réforme de l'Ancien Régime ? Eh bien, donc sur le modèle anglais, ils l'envisagent tout d'abord sur le modèle d'une amélioration agronomique, sur le modèle anglais, donc rationaliser l'usage des terres et arrêter de le donner à des paysans incultes. Donc voilà, là on voit un peu le mépris de classe, le type de mépris de classe qui existait au temps des Lumières. Donc il faut voilà révolutionner les méthodes agricoles. Donc par exemple, voilà, Voltaire, dans ses lettres anglaises, il va vraiment voilà, insister sur le fait qu'il faut imiter l'agriculture anglaise. Montesquieu aussi va le faire. Il va y avoir tout un tas voilà, il va y avoir des créations de sociétés royales agricoles, de sociétés d'agriculture qui vont promouvoir une amélioration des terres. Mais en fait, en même temps, il va y avoir surtout, de manière, à mon avis, peut-être plus décisive, une volonté de réaliser, de reproduire en France l'accumulation primitive qui a eu lieu en Angleterre. C'est-à-dire, en gros, la concentration des terres pour en faire un usage rationnel, économiquement intéressant. Et donc, par exemple, dans l'essai sur l'amélioration des terres, d'un exilé écossais qui est proche des physiocrates, eh bien, on va défendre l'enclosure des terres. Voilà. Donc, on va vouloir diviser les communaux, donc supprimer les terres communes qui appartenaient à toute la communauté paysanne. Et donc, du coup, les physiocrates vont malgré... Bon, là, j'ai parlé un peu plutôt de ce qui se passe avant les physiocrates. Les physiocrates vont être vraiment les moteurs de cette tentative de réforme. Donc, il y a des gens comme Cantillon, De Gournay, Quesnay, Turgot, voilà, tout un tas de gens qui vont se dire qu'il faut réformer l'agriculture française pour transformer l'Ancien Régime en un État moderne, puissant et fiscalement soutenable, puisque la France est très endettée à cette époque. Donc tous ces gens, ce sont des gens qui sont des administrateurs, donc des administrateurs royaux, hein, c'est pas juste des intellectuels dans leur bulle, ce sont des gens qui ont du pouvoir, qui vont être au pouvoir à plusieurs moments de l'histoire française. Et donc là-dessus, je renvoie à un ouvrage d'Arnaud Skornicki qui s'appelle « L'économiste, la cour et la patrie ». Et surtout, moi c'est plutôt cet ouvrage qui m'a beaucoup servi, c'est un ouvrage des gens qui sont très proches donc de Brenner, Hélène Mexinsoud et tout ça, sur la thèse de l'émergence du capitalisme en Angleterre d'abord. C'est un historien qui s'appelle David McNally et qui a écrit un très intéressant ouvrage qui s'appelle Political Economy and the Rise of Capitalism. Et donc lui qui défend l'idée que voilà, les physiocrates vont promouvoir l'instauration de l'agriculture capitaliste anglaise en France. Et alors, évidemment, puisque leur but c'est de sauvegarder l'Ancien Régime, eh bien, comment est-ce qu'ils envisagent de faire ça ? Eh bien, évidemment, c'est de manière dictatoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas la bourgeoisie trop faible en France qui va réaliser cette concentration foncière des terres, c'est la monarchie elle-même, qui doit donc concentrer les terres, déposséder une partie de la paysannerie, abolir les communaux, donc une forme de dictature, de modernisation, de rattrapage. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça le despotisme éclairé. Donc ce que attendent les physiocrates et les Lumières du roi de France, c'est d'être un despote éclairé. Et voilà, comme il n'y a pas de classe, entre guillemets, proto-capitaliste, et ben, comme les landlords anglais, qui étaient déjà propriétaires de la terre depuis très longtemps, depuis des siècles, du coup, c'est l'État monarchique absolutiste qui doit transformer l'agriculture française. Alors, de quelle manière est-ce qu'on va envisager ça? Et ça va être vraiment un élément central de la vie politique et sociale française des années 1770-1790, c'est par la libéralisation du commerce des grains. On pense que tout partira de la libéralisation du commerce des grains. Et donc, en fait, l'idée, c'est que avec la libéralisation du commerce des grains, ça entraînerait une augmentation des prix. Donc, tout le monde serait incité à produire, à augmenter sa productivité, à rationaliser sa production. Il n'y aurait plus toutes ces limitations, les prix populaires, les prix fixés par les autorités locales, tout ça, on oublierait. On éliminerait les droits de douane. Donc, ça permettrait, aux producteurs, qui sont incités du coup à se transformer en petits capitalistes, eh bien, ça inciterait les producteurs à produire plus. Et par cette augmentation des revenus, des investissements et de la productivité, il y aurait naturellement une sélection des producteurs, les plus rentables et tout ça. Et donc, inévitablement, il y aurait un phénomène de concentration foncière. Donc en gros, ils essayent de trouver, pour eux, la libéralisation du commerce des grains, qui va être vraiment centrale, puisqu'il va y avoir des émeutes, ça va causer tout un bins dans la politique française à cette époque. Eh bien, avec ça, on compte sur le fait que du coup, les communaux vont être partagés, puisque tout le monde va avoir intérêt à produire plus, et que les communaux, ça fait chier, parce que on peut pas vraiment produire à fond dessus. Il va y avoir des paysans qui vont être expropriés, donc on aura nos salariés agricoles, prolétarisation donc des producteurs, et voilà. Parfait, on a le scénario idéal. Alors, comment est-ce que cette libéralisation du commerce des grains va se faire? Eh bien, en fait, ça va être très compliqué. Louis XV, en 1754, va faire une première tentative qui ne va pas du tout marcher. Et en réalité, c'est uniquement à partir de 1763 qu'il y a une première réforme qui accorde une liberté complète au commerce interne des grains. Abolition des péages, de toutes les douanes intérieures, enfin de la plupart en tout cas. Donc, en dehors de l'Île-de-France. Donc là, on note, c'est pas que pour l'Île-de-France, hein, c'est ce premier édit. Et ensuite, en 1764, sous l'influence des physiocrates, il y a une autorisation d'exportation des blés. Donc là, on est vraiment sur un schéma de on va forcer l'émergence d'une agriculture anglaise, donc en fait capitaliste, même si c'est pas forcément l'objectif direct, à travers ces mesures de tentative de créer un marché agricole français. En réalité, eh bien, ça va être le bordel, parce que en fait, les prix vont doubler en 5 ans, et il va y avoir d'énormes révoltes paysannes. Alors là, pour des révoltes, il y a déjà eu des révoltes hein, paysannes, il y en a eu tout au long du Moyen-Âge et de la période moderne. Je renvoie notamment là-dessus à Porchnev, qui a écrit un ouvrage assez intéressant sur le XVIIe siècle. Mais là, c'était des révoltes vraiment anti-féodales. Là, on arrive sur des nouvelles formes de révoltes, qui sont pas tellement des révoltes de paysans d'ailleurs, mais plutôt des révoltes de consommateurs locaux, qui vont se révolter contre cette libéralisation du commerce des grains, du commerce de la principale marchandise agricole française. Et donc finalement, en 1770, cette expérience s'achève. Elle va s'achever jusqu'au 1774, et là, il va y avoir un nouveau physiocrate qui va arriver au pouvoir avec Louis XVI. Et donc Louis XVI, là, sous l'influence de tous ces modernisateurs, et voilà, va se dire « Ah oui, bah tiens, il faut réformer l'Ancien Régime, hein, c'est toujours le truc qui va y avoir jusqu'à la Révolution française, c'est il faut réformer l'Ancien Régime. » Et donc il va instaurer Turgot, qui est un libéral assez radical pour son époque, et donc il rétablit, en 1774, les mesures de 1763, avec quelques restrictions, notamment sur l'exportation des grains et sur Paris. Parce que Paris, comme c'est le centre du pouvoir politique, on peut avoir des révoltes partout, mais alors à Paris, il ne faut surtout pas de révolte. Donc là, on voit que même ce libéralisme, il est limité par cet impératif politique et social. Et malgré tout, eh bien, en 1774, manque de bol, il va y avoir des mauvaises récoltes, et donc il va y avoir une augmentation énorme des prix, et comme sous l'Ancien Régime, il y a beaucoup de spéculation, c'est-à-dire que quand les prix sont bas, on garde tout, et on ne revend que quand les prix sont très hauts. Et donc là, comme les prix augmentent, les gens se disent, bon, bah, on pourra revendre plus tard, quand les prix seront vraiment au maximum. Et du coup, il va y avoir ce qu'on a appelé une guerre des farines, donc des énormes émeutes en France, et auxquelles Turgot répond d'une main de fer. Donc là, on est sur de dictature libérale, entre guillemets, hein, même si c'est assez anachronique de dire ça. Il y a quand même 25 000 soldats qui sont mobilisés à Paris. Interdiction sous peine de mort des attroupements, 500 personnes arrêtées, et une juridiction d'exception qui condamne plusieurs personnes à une peine lourde pour avoir fait des émeutes frumentaires. Il y a même deux personnes qui sont exécutées, ce qui fait qu'une historienne française dit « La main invisible d'Adam Smith était devenue la main très visible de la loi martiale. » Voilà. Et donc, Turgot, renforcé par cette épreuve de force, va continuer sa libéralisation. Mais ça, c'est une constante sous l'Ancien Régime. En 1776, il va finalement être renversé par l'aristocratie conservatrice qui ne l'apprécie pas. Et donc, toutes ces réformes vont être annulées. Alors ensuite, on a une dernière tentative en 1786 et 1787 de cette libéralisation. Donc là, voilà, on voit l'Ancien Régime essaye de faire des modernisations, de rattrapage, et de créer l'agriculture capitaliste en France, mais il n'y arrive pas. En 1786, ça va être le traité franco-anglais de commerce qui va faire que les Français vont pouvoir exporter leurs marchandises agricoles vers l'Angleterre. Et en 1787, il va y avoir une libéralisation également du commerce des grains. Donc, on voit qu'il y a une dernière tentative. Mais ces tentatives vont faire long feu. Calonne va effectivement essayer de créer un marché national, il va supprimer toutes les douanes intérieures. Donc là, on est vraiment sur la tentative de créer un marché agricole français concurrentiel, mais il va être balayé par la crise fiscale de la monarchie, qui va faire que finalement, l'Ancien Régime va être balayé par ses contradictions. L'Ancien Régime n'aura pas réussi à se moderniser et à transformer ses structures féodales en structures capitalistes. Elle va s'écrouler sous le poids de ses dettes et ça va entraîner la Révolution française. Alors, justement, pour parler de la Révolution française, elle va avoir, elle, un rôle très important dans l'histoire de l'agriculture française, puisque en 1789, sans revenir sur les événements, eh bien, c'est globalement l'aristocratie et la bourgeoisie libérale qui vont prendre le pouvoir dans les différentes assemblées révolutionnaires, assemblées constituantes, qui vont faire que, à mon sens, et là je renvoie donc à la note de lecture sur Daniel Guérin et à la conférence sur l'histoire de l'émergence du capitalisme en France, le capitalisme émergerait donc en 1789, s'il fallait à tout prix donner une date, parce que là on arrive vraiment sur toute une série de réformes très importantes. Et alors pour en rester à l'agriculture, eh bien enfin, la libéralisation du commerce des grains est actée, les douanes intérieures sont supprimées, et donc là on crée un marché agricole français, au moins à un point de vue légal, et donc c'est vraiment une révolution dans l'agriculture française. Alors, par contre, cette libéralisation, elle va être, donc qui donne naissance à, disons, les rudiments de ce que pourrait être un marché agricole capitaliste, eh bien, elle va être contrecarrée par deux tendances. D'une part, c'est que, en raison des problèmes de transport, le marché n'est pas vraiment national, en fait. C'est-à-dire qu'on continue en fait globalement de vendre sur les marchés. Il y a une petite homogénéisation des prix, il y a une petite augmentation de la concurrence en France, du coup. Mais il n'y a pas comme en Angleterre avec les canaux. En Angleterre, il y a beaucoup plus de fleuves et de canaux. Où là, il y a vraiment beaucoup plus, je veux dire, le nord de 50 km au nord de Londres, 50 km au sud de Londres, c'est vraiment le même marché. Là, c'est vraiment beaucoup plus éclaté, quoi. À cause des problèmes de transport. Mais il y a une deuxième tendance qui va contrecarrer cet essor, disons, de l'agriculture capitaliste française, c'est tout simplement le fait que la paysannerie va réussir, parce qu'elle est en position de force suite à ces révoltes très importantes des années 1789, 1790 et puis les années suivantes, à empêcher la bourgeoisie française de mettre les mains sur toutes les terres. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est pas forcément ce que la bourgeoisie française voulait faire. La bourgeoisie française était restée sur un modèle qui était le modèle donc du XVIIIe siècle, qui était on achète des terres et on les loue à plein de petits paysans qui ont soif de terre. Hein, c'est vraiment ça le moteur. Les paysans ont soif de terre au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, et on exploite leur soif de terre en leur faisant payer super cher, soit en forme de location, soit sous forme de vente. Ce qui fait que les biens nationaux, donc qui sont les terres qui sont confisquées à l'aristocratie et au clergé par les révolutionnaires français, vont être largement achetés par les paysans.
Il faut peut-être préciser que c'est des choses qui ne se sont pas passées sans heurts. Voilà, il y a quand même y a un historien, Lefebvre notamment, qui a beaucoup travaillé sur cet aspect-là de l'histoire dans le nord de la France, et notamment en Picardie et, ou dans le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, et qui précise que finalement il y avait des groupes de paysans qui se mettaient ensemble pour faire une caisse commune et se positionnaient sur l'achat de terre et qui barraient la route à certains bourgeois qui allaient se positionner sur les ventes de biens nationaux et pour pouvoir acheter les terres par eux-mêmes. Bon. En l'occurrence, il y a une partie de ces paysans qui, historiquement, vont devenir les gros agriculteurs, on va dire, soit de la plaine du Calaisie, de plaine du Cambrésis, pardon, dans le nord, ou des grosses structures agricoles picardes plus tard, quoi. Mais donc, il y avait effectivement une opposition à ce rachat par la bourgeoisie via une logique collective paysanne au début du 19e, quoi.
Mais c'est vrai que c'est important de préciser ça parce que, en fait, finalement, les deux acteurs s'opposent. Donc, ces deux acteurs, les paysans d'une part et les bourgeois des villes et des campagnes. Mais par contre, ils s'opposent aussi, évidemment, en termes d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent acheter les terres pour pouvoir les louer ou les vendre super cher aux paysans. Alors que les paysans, eux, veulent les terres les moins chères possibles. Et ils veulent faire de l'autosubsistance. Mais en fait, personne ne veut finalement basculer vers une agriculture capitaliste.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui se passe à ce moment-là, c'est finalement parce qu'on a tendance à projeter l'idée de la figure du paysan terrien qui veut absolument des terres. Et en fait, la plupart des usages des terres étaient basés sur des droits d'usage antérieurement. Et là, il y a une logique patrimoniale forte qui se met en place et un peu contre la bourgeoisie et qui va du coup participer à la construction de l'identité de l'agriculteur propriétaire de terre, mais qui est déjà une forme de construction de la modernité. Et du coup, ça, c'est aussi intéressant de déconstruire un peu cette figure de l'agriculteur intrinsèquement propriétaire et terrien et agrarien, en fait, qui est finalement un mouvement politique du 19e en France, quoi.
Oui, oui, c'est important de préciser
qui,
ça.
Qui s'enclenche très sérieusement à ce moment-là, on va dire.
Et peut-être pour finir, on voit bien que les paysans, dans leur achat des terres pendant la Révolution française, leur principal objectif, ça reste l'autosubsistance. Et donc là, on s'inscrit en faux contre une théorie qui a été portée notamment par un historien qui s'appelle Anatoly Addo, dans Paysans en Révolution, Terre, Pouvoir et Jacquerie, donc il y a un historien robespierriste, qui dit qu'ils étaient objectivement des proto-capitalistes, les paysans français. Donc finalement, il considère que la paysannerie française s'empare des terres, en 1789, pour des raisons capitalistes, alors qu'en fait, ils s'emparent des terres pour des raisons qui ne sont pas capitalistes en réalité, et qui visent peut-être un petit peu à accroître leur surplus commercialisable, mais ce n'est pas ça le principal objectif. Et je pense que finalement, Anatoly Addo prend, prend mal le problème. En réalité, ce n'est pas la paysannerie qui va être motrice du capitalisme agraire, comme par exemple les landlords en Angleterre ont été les moteurs du capitalisme agraire. Ils ont transformé les rapports de propriété pour justement vendre massivement au marché de Londres. En réalité, c'est les paysans qui vont être intégrés progressivement au marché capitaliste de par la marche générale du capitalisme français. Donc on est dans des dynamiques quand même assez différentes et on peut pas dire que les paysans ont été des capitalistes qui ont cherché consciemment à créer le capitalisme agraire. Et ça, je pense que c'est quand même important de le préciser. Donc ce qui se passe donc, pendant la Révolution, c'est une sorte de compromis. Donc il y a un compromis, effectivement, il y a une libéralisation des terres, formellement, il y a un marché national agricole, donc ce qui fait qu'on peut commencer à parler d'agriculture capitaliste, mais en réalité, cette agriculture française, elle reste quand même très peu capitaliste. Elle est formellement capitaliste, pour reprendre un peu le... Bah, aussi, ça a fait écho, évidemment, au concept de subvention formelle de Marx, Mais globalement, elle est quand même très formellement capitaliste, puisque globalement, majoritairement, elle est destinée à l'autosubsistance. Il y a toujours des problèmes de coûts de transport prohibitifs qui empêchent vraiment l'unification d'un marché national, ce qui fait que globalement, jusqu'au milieu du 19e siècle, le marché agricole français est extrêmement éclaté. Et ce qui fait que les prix de coûts de transport sont tellement prohibitifs qu'on ne peut même pas exporter à 50 km, quoi. Voilà, donc ça montre un petit peu le niveau. Voilà, donc on arrive sur ce compromis agraire qui est finalement assez conservateur et qui fait que, globalement, la France de la première moitié du 19e siècle, ça va être ce que un historien, Jean Tudesque, a appelé la France des notables. C'est un peu la France des notables et des paysans qui va être... tout au long du 19e siècle. Donc les notables qui sont plutôt extrêmement conservateurs et réactionnaires, monarchistes, qui continuent de gagner de l'argent comme au temps de l'Ancien Régime, c'est-à-dire en louant leurs terres ou en les vendant super cher à des paysans. Et les paysans, eux, sont très très lentement intégrés au marché capitaliste. Ils sont propriétaires, ils ont eu ce qu'ils voulaient depuis... tout au long du féodalisme, hein, c'est-à-dire être propriétaire de leurs terres et être un peu moins, ne plus être emmerdé par des seigneurs. Et donc finalement, la paysannerie, effectivement, au XIXe siècle, devient une forme plutôt conservatrice. Même s'il y a des révoltes, quand même, il faut le souligner, hein, à plusieurs reprises. Donc il y a des révoltes au moment de la Seconde République, hein, en 1848-1851. Il y a la guerre des demoiselles, aussi, en Ariège, qui sont des guerres pour les droits, pour les droits d'usage, pour les forêts, pour les communaux. Donc il y a quand même par-ci par-là quand même des révoltes paysannes, mais qui demeurent quand même plutôt dirigées contre, qui sont dirigées avant tout contre l'État central, ou contre certaines réformes, mais c'est évidemment pas, évidemment on peut pas dire que les paysans, en fait les paysans sont pas révolutionnaires au sens où ils chercheraient à battre le capitalisme, mais ils sont tout simplement, ils cherchent à pas trop rentrer dedans, à pas trop rentrer dans le capitalisme, et à pas trop se laisser, à ne pas trop s'intégrer au marché capitaliste, et uniquement le faire quand c'est avantageux. C'est-à-dire, on vend sur le marché local quand les prix sont hauts, on vend moins quand les prix sont plus faibles. On est vraiment dans une logique qui est, voilà, le capitalisme au stade de subvention formelle, mais vraiment dans le sens très très formel, quoi, hein. On n'est pas du tout dans une intégration très forte des paysans au capitalisme français. Donc cette situation va perdurer jusqu'au milieu du 19e siècle. Et là, il va commencer à y avoir des transformations au milieu du 19e siècle. C'est bien raconté dans un ouvrage de Roger Price, hein, qui s'appelle The Modernization of Rural France, Communication Networks and Agricultural Market Structures in 19th Century France. Donc je traduis, c'est la modernisation de la France rurale, les réseaux de communication et les structures du marché agricole dans la France du 19e siècle. Et donc, dedans, il défend l'idée qu'en réalité, la véritable émergence, enfin la sortie de l'économie d'Ancien Régime intervient, bon, je suis pas complètement d'accord avec sa théorie, mais parce que je pense quand même qu'on est sorti de l'économie d'Ancien Régime en 1789 de manière globale, mais c'est vrai qu'au niveau agricole, on reste largement dans des formes qui sont héritières de l'économie d'Ancien Régime. Et le premier première forme de bousculade de cette économie pseudo d'Ancien Régime, cette économie très très formellement capitaliste, agricole, disons, c'est l'arrivée du chemin de fer. Et en fait, le chemin de fer, donc qui va se développer à partir de 1840, mais surtout très fortement sous Napoléon III, qui est un peu l'espèce de dictateur de modernisation de rattrapage, hein, en France, qui va créer un énorme réseau ferroviaire qui va être poursuivi sous la Troisième République.
En partie en réaction à la modernisation anglaise qui a lieu parallèlement. Quoi.
C'est ça, évidemment. Évidemment, les Français, tout au long des années 1830-1840 et sous Napoléon III, se disent on est en train d'être distancés par les Anglais très fortement, parce qu'il y a la révolution industrielle anglaise, il y a un développement gigantesque du réseau de chemin de fer. Et la monarchie qui avait amélioré les canaux pendant les années 1820-1830, dans les années 1830-1840, il commence à y avoir en disant on ne peut plus rester à des canaux, il faut créer des chemins de fer. Ça va se faire très lentement, parce que ce qu'on oublie, c'est que on voit évidemment le capitalisme d'un point de vue progressiste, hégélien, libéral ou que sais-je, comme quelque chose de merveilleux, où même toute la bourgeoisie, les classes dominantes ont envie de rentrer dedans. Mais en France, paradoxalement, les classes dominantes même n'ont pas très envie de rentrer dans le capitalisme. Parce que, ou de pas aller plus loin dans le capitalisme, ils ont envie plutôt de ralentir sa dynamique, de profiter. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus sympa quand on est un capitaliste agricole, de simplement empocher l'argent des paysans sous forme de rente usuraire, que de se mettre à devoir organiser une exploitation de manière rationnelle, d'être sur un marché national avec une concurrence énorme, voire d'être sur une concurrence internationale. Parce qu'à partir de 1860 et du traité de commerce franco-anglais entre Napoléon III et l'Angleterre, là, ça va être carrément une concurrence internationale. Bon, évidemment, l'Angleterre exporte pas beaucoup de, exporte pas agri au niveau agricole, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand même, on voit que il y a que ce soit les paysans ou les classes dominantes, les notables et tout ça, c'est pas qu'ils sont anticapitalistes, c'est juste que ils se satisfont, disons, d'une intégration très formelle au capitalisme et des mécanismes d'ancien régime, c'est-à-dire la terre aux pays, entre guillemets, la terre aux paysans et les rentes usuraires aux notables et aux propriétaires fonciers.
Il n'y a pas d'intérêt particulier à basculer dans un productivisme complètement débridé, parce qu'ils sont effectivement encore dans une situation de domination sociale où ils peuvent se contenter de, voilà, de l'organisation du système agraire tel qu'il est mis en place, quoi, à ce moment-là.
C'est ça. Et c'est pour ça que ça, c'est une particularité de l'histoire française dont on n'a pas parlé avant, mais qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que le moteur de l'intégration capitaliste de l'agriculture française, ce n'est pas, comme en Angleterre, les classes dominantes, ce n'est pas non plus, comme par exemple l'Anatolie Adot l'a argumenté, les paysans, en réalité, c'est l'État. C'est l'État qui est le moteur d'une grande partie des transformations agricoles en France. On détaillera, hein, et on nuancera évidemment, mais notamment par exemple le développement du réseau de chemin de fer qui va créer un marché national agricole. Alors évidemment, je parle pas des montagnes et du Midi, hein, là je parle vraiment des grandes régions du Languedoc par exemple, ou des choses qui vont être intégrées par le chemin de fer. Effectivement, sans l'État français, il n'y aurait pas eu ce réseau de chemin de fer, il n'y aurait pas eu une homogénéisation des prix, donc Roger Price montre, bon d'ailleurs c'est paradoxal qu'il s'appelle Roger Price, mais voilà, il y a un début de concurrence nationale à cette période.
Et on verra que l'économie agricole se fait aussi beaucoup après la période que tu es en train de détailler, donc après 1880, par le crédit en agriculture, et que du coup, ça sera très très impulsé par l'État aussi, quoi. On rentrera dans les détails, mais là aussi, l'État a un rôle moteur voilà, d'intégration de l'agriculture dans une logique de crédit dans sa forme moderne, on va dire.
Et justement, avant de faire une pause musicale et de passer justement à la partie donc des années 1880, on finira juste rapidement en rappelant donc que les structures agraires de la Révolution française aux années 1870-1880 restent quand même globalement. Enfin, il y a une intégration très très lente au marché capitaliste qui se font par plusieurs épisodes. Voilà, et notamment. Bon, il y a une diminution, disons, des droits d'usage sur les sols et sur les communaux tout au long de cette période. Il y a des tentatives, voilà, d'incitation à une augmentation de la productivité agricole. Il y a donc cet épisode d'intégration par le chemin de fer. Mais globalement, on reste sur des structures inchangées, enfin, globalement inchangées, disons. Et ce qui fait qu'en fait, la première grande structure, c'est quand même 1789, hein, avec la libéralisation complète du commerce des grains. Et d'autre part, pour rappel, donc, toute cette période est marquée par, disons, un relatif compromis social. Ce qui fait qu'il y a des révoltes paysannes, il y en a au 19e siècle, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il y a une espèce de compromis social entre le pouvoir politique qui utilise la paysannerie comme chair à canon contre le prolétariat et pour ses guerres. Les notables qui finalement se satisfont très bien de la paysannerie qui a les terres puisqu'elle peut leur louer ou enfin qu'elle peut leur louer comme complément ou pour les paysans sans terre leur louer tout court et se faire de l'argent. Donc il y a une espèce de compromis social qui fait que effectivement Marx et les socialistes français ont pu considérer que la paysannerie était une force contre-révolutionnaire. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement parce qu'elle avait quand même réussi à gagner quelque chose pendant la Révolution française et que finalement, elle n'avait pas un intérêt monstrueux Enfin, évidemment, si, elle avait un intérêt au communisme libertaire. Mais bon, disons qu'elle a été moins incitée que le prolétariat, qui était dans des situations bien, bien pires, à se révolter contre, finalement, un capitalisme agricole relativement faible et qui n'avait pas commencé à les broyer. Et justement, c'est l'histoire de cette, disons, d'une intégration plus forte dans le marché capitaliste de la paysannerie qu'on va raconter dans une deuxième partie. Donc avec notre invité William, sur qu'on a intitulé hein, donc des années 1880 jusqu'aux années 1950, une lente modernisation agricole.
Et juste quand même pour préciser, avant de basculer sur la période 1880-1960, préciser que finalement il y a quand même un processus, même s'il n'y a pas de rupture en France, ça prend pas du tout la même forme que l'Angleterre. Il y a quand même une modification des droits sur le sol progressive entre le milieu du 18e et la fin du 19e qui est quand même assez importante. Et donc on passe d'une pluralité des droits du sol où finalement il y a des gens qui peuvent éventuellement avoir un peu de bétail, mais pas assez de bétail pour fumer toute leur terre, qui du coup bénéficient des fumures, des jachères, etc. Ou des gens qui ont beaucoup de bétail mais qui n'ont pas de terre, mais qui peuvent bénéficier des terres collectives. Donc en gros, on va dire un paysage de la paysannerie très protéiforme, avec voilà, des manouvriers, des ménagers, des voilà, donc différentes figures qui composent la paysannerie et pas un paysan unique. Et avec une multiplicité des droits d'usage sur le sol et un processus d'individuation de ces droits très très progressif. Effectivement, la Révolution note un peu la fin des communaux, des droits de pacage, des droits de glanage, des droits de chômage, toutes les formes de multiplicité des droits à la fois géographiques sur le sol et dans le long du calendrier culturel, on va dire. Mais voilà, la propriété, pas non plus absolue, mais on va dire le basculement vers un droit un peu unique sur le sol, c'est quelque chose d'assez progressif et qui, on va dire, est quasiment abouti. On passe de 10 millions d'hectares de jachères au milieu du 18e sur les 24 millions d'hectares labourables que compte la France à 75% de ces 10 millions d'hectares de jachères qui sont mis en culture. Donc du coup, toutes les possibilités de terre tournante et de multiplicité de droits du sol et de voilà, n'existent plus, et on bascule sur l'agriculture moderne productiviste qui existe depuis beaucoup plus longtemps en Angleterre, c'est-à-dire finalement un usager unique du sol avec la révolution agronomique qui a eu lieu dans ce cadre juridique particulier, c'est-à-dire une rotation entre des céréales, des plantes sarclées et ce qu'on appelle des légumineuses, donc du coup les plantes qui restituent l'azote du sol et restituent la fertilité, donc trèfle, etc. Donc à la fois restitution du sol et augmentation de la productivité, augmentation aussi parfois du bétail et de la fumure, et aussi le plan de sarclé qui vient juste avant les céréales, avec une augmentation d'ailleurs très forte du travail dans ce modèle agricole. Le calendrier devient complètement agricole, devient complètement rempli. Et ces plans de sarclé qui permettent de désherber au préalable. Donc on est sur une agriculture, voilà. Donc ça c'est la révolution agricole qui a eu lieu en Angleterre et qui s'introduit, on va dire, progressivement en France, avec des échanges entre les agronomes français et les agronomes anglais pour introduire ce modèle, mais qui est finalement un modèle dont les préconditions sont aussi des formes de droits d'usage sur le sol différentes, quoi. Et après qui demanderont aussi des formes de matériel, etc., particuliers, qui pourront justifier aussi d'équipements et de crédits pour pouvoir... et puis des fois aussi la fin d'usage de matériel, on va dire, commun à l'échelle villageoise vers des processus aussi d'individuation du matériel agricole, quoi.
Oui, oui, c'est important. Effectivement, on pourrait avoir l'impression à m'entendre, c'est évidemment parce que je voulais dire qu'il n'y a pas eu de transformation après 1789. Au contraire, en fait, c'est une lente intégration, voilà, de l'agriculture française au capitalisme de 1789 à 1870. Il y a un peu une espèce de petite rupture quand même en 1789. Pendant la période révolutionnaire, c'est vrai qu'effectivement, une des ruptures quand même fortes, c'est la restriction des droits communs, quoi, hein. Mais qui est quand même moins radicale qu'en Angleterre. C'est pour ça qu'il faut... qui est un peu moins radical qu'en Angleterre, où là, tout est supprimé. Alors qu'en France, effectivement, ça se supprime un peu lentement. Napoléon essaye d'en supprimer en plus, finalement il n'y arrive pas. Ça finit vraiment, c'est sous Napoléon III que vraiment les derniers. Bon, il y en a encore un petit peu aujourd'hui, hein, mais effectivement, qu'il ne reste plus grand-chose, quoi. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que la Révolution française accomplit quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'était important que tu précises ça, c'est qu'il y a une. On passe d'un paysage, comme tu dis, très pluriel du monde agricole. Avec tout un tas de gammes de paysans, le gros paysan, le petit paysan, celui qui est journalier mais qui a quand même quelques terres, celui qui est pas journalier mais qui a pas, qui est principalement journalier mais qui quand même peut survivre à côté avec une vache sur des terres communes. Effectivement, il y a quand même une homogénéisation de la figure du paysan qui va ensuite se transformer. En une forte différenciation sociale hein, à partir des années 1880, vous voyez avoir une augmentation des inégalités avec une intégration plus forte. Et c'est pour ça qu'il faut faire une pause musicale avant, parce qu'il y a aussi donc une épuration un petit peu de la paysannerie française. Donc pour rappeler, hein, les années 1880, c'est aussi le pic historique de la propriété paysanne en France. Mmh. Après, ça diminue.
Et c'est important aussi, on va dire politiquement, parce que la figure du paysan est quand même souvent invoquée politiquement, notamment dans les mouvements, on va dire, de paysans de gauche, hein, mais elle est parfois aussi invoquée dans des mouvements de droite, mais c'est invoquer une figure finalement un peu fantasmée, alors que voilà, ce qu'on peut appeler paysannerie au XVIIIe siècle, c'est très 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 distinct que ce qu'on appelle un paysan à la tête d'une entreprise agricole aujourd'hui où 100% de la production va sur le marché, etc., sur des droits d'usage du sol. Voilà. Donc c'est important quand même de qualifier ces catégories parce qu'elles sont réutilisées un peu à tort et à travers, souvent dans des optiques politiques ou de mobilisation. Mais en fait, ça correspond, anthropologiquement en tout cas, c'est pas des figures qui sont. Parce qu'on, ça laisse penser qu'il y a une sorte de figure mythique du paysan, avec des, et puis en plus, voilà, avec cette idée de valeur paysanne aussi transhistorique, alors que bon, voilà, on est encore sur.
Dans un monde très mouvant, en fait, il y a des recompositions très fortes.
Ouais, voilà.
Oui, c'est important de le préciser, effectivement, parce qu'on pourra avoir l'idée, peut-être d'ailleurs que l'usage du mot paysan pour qualifier toute sa sorte de situation est malheureux, quoi, parce qu'effectivement, on parle d'agriculture paysanne aujourd'hui pour parler de gens qui sont à la Confédération paysanne, et de gens qui sont au XVIIe siècle en France, et de gens qui sont dans une agriculture très traditionnelle en Afrique, enfin, on mélange un peu tout, et effectivement, c'est important de préciser ça. Et bien donc du coup, avant de passer à la lente modernisation agricole, mais là, qui pour le coup est quand même plus accélérée que la période qu'on vient traiter, on va faire une pause musicale.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gourba nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine.
D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance.
C'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
L'État nous écrase d'impôts, il faut payer ses juges, sa flicaille. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille.
Les maîtres ont changé cent fois, c'est le jeu de la politique.
Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie.
Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre.
Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libre.